Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 13h à Paris, midi en temps universel.
Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans RFI Midi, une heure d'information le week-end, l'actualité dans le monde dans cette première demi-heure avant Afrique Midi. Chronique, reportage, invité, on commence avec le journal et à la une. Le Vendée Globe, la course à la voile autour du monde et en solitaire. Top départ dans deux minutes, même pas, et ce sera en direct dans ce journal. On entendra aussi un peu plus tard quelques-uns de ces 40 navigateurs partis pour une aventure sportive hors du commun. Également dans la actualité, une trentaine de morts ce matin dans la bande de Gaza tués par l'armée israélienne. Le grand chelem de Donald Trump qui remporte finalement les 7 états clés de la présidentielle avec une dernière victoire annoncée en Arizona. Et puis les mauvaises vendanges en France, une production attendue en recul de 23%.
RFI Midi.
À suivre encore l'offensive de Pékin sur le continent sud-américain avec le plus grand port du sous-continent inauguré au Pérou et construit par la Chine. Décryptage avec notre invité. On parlera aussi de la dronisation de la guerre. Et puis l'un des rois du pop art exposé à Paris, Tom Welsman. Et on retrouve sans plus tarder notre envoyé spécial au large des Sables d'Olonne sur la côte atlantique française, Thomas de Saint-Léger. Vous êtes sur un bateau pour nous faire vivre en direct le départ du Vendée Globe.
Oui, Florent, le coup de canon du départ dans quelques secondes pour ces 40 bateaux autour de nous à leur barre. 34 hommes, 6 femmes représentant 11 nationalités. La plus jeune, Violette d'Orange, 23 ans, le plus âgé, c'est Jean Le Cam, 65 ans. Des profils, des parcours qui ne se ressemblent pas forcément, mais tous ses concurrents sont maintenant liés par ce défi qui les anime depuis de longs mois de préparation et qui, ça y est devant eux, les dernières secondes avant ce tour du monde, le début de ce tour du monde à la voile, en solitaire, en descendant l'Atlantique, puis l'Indien, les mers du Sud, les plus hostiles, souvent le passage redouté par le Cap Horn avant de remonter pour revenir au Sable d'Olonne. Et même si les marins sont prêts, même si ce sont des bateaux, des bijoux de technologie qui peuvent aller jusqu'à 55 km/h, la route sera très longue, 75 jours peut-être pour les meilleurs de cette flotte qui va partir et qui va évoluer ses premières heures sur une mer calme avec un vent plutôt faible.
Thomas de Saint-Léger en direct des Sables d'Olonne et on écoutera un peu plus tard votre reportage avec quelques-uns de ces navigateurs fascinés par cette course hors norme. Ce sera dans le journal des sports dans 7 minutes exactement. Encore des dizaines de morts au Liban et dans la bande de Gaza. Des dizaines de personnes tuées par l'armée israélienne. Alors on va d'abord parler de la bande de Gaza avec vous, Elisa Fellier. La défense civile palestinienne annonce la mort de 30 Palestiniens dans 2 frappes israéliennes.
Oui, la première frappe visait une maison familiale à Jabalia, dans le nord de Gaza. Elle a fait au moins 25 morts, majoritairement des enfants, et plus de 30 blessés. Les secours palestiniens ont également fait état d'une autre frappe israélienne, elle aussi sur une maison, dans le quartier de Sabra, à Gazaville. Au total, 5 morts et de nombreux disparus. Un certain nombre de civils sont toujours sous les décombres, ont précisé les secours. Depuis un mois maintenant, les troupes israéliennes mènent une offensive contre le nord de la bande de Gaza, notamment à Jabalia. Un rapport de l'ONU publié vendredi montre que les civils sont les plus touchés par les attaques de l'État hébreu. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Ils représentent près de 70% des morts dans la bande de Gaza entre novembre 2023 et avril 2024. Israël, de son côté, assure limiter au maximum les dommages collatéraux. Depuis le début de la guerre, plus de 43 000 Palestiniens ont été tués, selon le Hamas.
Elisa Fellier, il y a des morts aussi, je le disais, au Liban. Ces dernières heures, des frappes israéliennes sur une localité chiite situé au nord de Beyrouth. Au moins 20 morts selon le ministère de la Santé hier. Ce sont une quarantaine de personnes qui avaient été tuées par l'armée israélienne. À noter dans la région et dans l'agenda diplomatico-nucléaire, la visite annoncée mercredi à Téhéran, en Iran, du chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bataille de drones entre l'Ukraine et la Russie ces dernières heures. 145 drones russes ont ciblé l'Ukraine. Un nombre record selon le président Volodymyr Zelensky alors que la Russie l'annonce. Avoir neutralisé 70 drones ukrainiens, la majorité d'entre eux se dirigeaient vers Moscou, dans la capitale russe. Une déclaration du porte-parole du Kremlin ce matin après l'élection de Donald Trump. Dmitri Peskov parle de signaux positif en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Donald Trump élu très largement mardi dernier. Les résultats de l'Arizona sont tombés. Le 7e état clé de la présidentielle a finalement bien été remporté par le candidat républicain qui engrange au total 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, qui accuse aussi un gros retard sur le vote populaire. Plus de 3 millions de voix séparent les deux candidats. Alors cette élection de Donald Trump, elle suscite des inquiétudes chez le voisin canadien qui se souvient qu'en 2016, lors du premier mandat de Donald Trump, des milliers de migrants avaient voulu quitter les États-Unis et pris le chemin du Nord pour demander asile au Canada. Depuis, le gouvernement canadien a durci les règles d'accueil. Correspondance de Pascal Guéricola.
Depuis mars 2023, le Canada a revu l'entente sur le droit d'asile avec les États-Unis. Impossible désormais de demander le statut de réfugié dès l'arrivée en sol canadien comme auparavant, si on traverse illégalement la frontière. Il faut avoir été pendant 2 semaines sur le territoire. L'avocate en droit de l'immigration, Chantal Yannisilio.
Un mécanisme qui est beaucoup plus difficile physiquement pour que la personne puisse arriver au Canada. Est-ce que c'est impossible? Non, ça ne l'est pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir la capacité de rester pendant 14 jours au Canada avant de pouvoir faire une demande d'asile.
Malgré tout, certains comme le premier ministre du Québec craignent un afflux de migrants à la frontière et demandent au gouvernement canadien de bien la protéger. Un engagement mis de l'avant par la vice-première ministre Chrystia Freeland qui préside un comité de relations avec les Américains.
Contrôler notre frontière, savoir qu'on est vraiment un pays souverain qui contrôle notre frontière, c'est fondamental.
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en difficulté dans les sondages, risque justement d'être jugé sur sa capacité à gérer l'arrivée potentielle de nouveaux immigrants lors des élections à venir. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
RFI, il est 13h08 à Paris. Un mot dans l'actualité française avec une expression qu'on pensait avoir disparu, qui revient, chômage de masse. Et une nouvelle déclaration ce matin inquiète d'un membre du gouvernement. C'est la ministre du Travail qui dit, on va dire pudiquement, que les conditions économiques se durcissent sensiblement. Ça va pas bien non plus du côté de la viticulture avec une production annoncé en recul de 23% cette année par rapport à l'année précédente. Trop de pluie, une mauvaise météo, trop de maladies aussi dans les vignes et puis aussi parfois trop de sécheresse. Écoutez ce qu'en dit un vigneron, il s'appelle Jérôme Bauer, il est le président de la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée.
Intempéries, maladies et sécheresse pour le Languedoc et le Roussillon. C'est plus la sécheresse qui a créé de grosses pertes de récolte, hein, puisque dans certains endroits, il n'a quasiment pas plu depuis quasiment 2 ans maintenant. La Bourgogne a eu de graves incidents climatiques, enfin comme un petit peu partout en France, j'ai envie de dire. C'est même plus que de la morosité, je pense, hein. C'est une inquiétude énorme rencontrée par les vignerons aujourd'hui, parce qu'on doit faire face à une crise qui est multifactorielle, à la fois avec les incidences climatiques et économiques que ça cause sur nos entreprises, mais aussi la conjoncture de la baisse de la consommation de vin en France, en Europe et dans le monde, et les problèmes de géopolitique qu'on peut rencontrer un petit peu partout qui freinent nos exportations. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le moral, il n'est pas au beau fixe du tout, quoi, et on est très très inquiet pour l'avenir de la filière et l'avenir de nombreuses exploitations en France.
Le vigneron Jérôme Bauer avec Alexis Bédu. Il est presque 13h10 à Paris. Et au programme de ces 20 prochaines minutes, avant Afrique Midi, la Chine en Amérique du Sud. Rendez-vous avec notre invité à quelques heures de l'ouverture du sommet de la PEC, le sommet Asie-Pacifique, et à quelques jours de l'inauguration du plus gros port d'Amérique latine, un port Made in China. Comment la France comble son retard dans la fabrication des drones militaires en mer? On verra ça dans Ligne de Défense. Et puis, une expo événement à Paris. Tom Wasselman, l'un des rois du pop art américain. Mais d'abord, les sports. Et le journal des sports, c'est avec vous, Olivier Prom, bonjour.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Vous l'avez vécu avec nous, Olivier, avec tous nos auditeurs. Le coup d'envoi, il y a quelques minutes, c'était en direct sur notre antenne du Vendée Globe. La grande course en solitaire autour du monde et sans escale.
Et sans escale, effectivement, c'est important. Sans assistance également. 10e édition, 40 skippers, 11 nationalités. On appelle cela l'Everest des mers. Alors, qu'ont-ils en tête ces skippers, Florent? Là, maintenant, au moment où nous, on se parle tranquillement dans le studio et que s'élance pour cette immense aventure, 80 jours de mer, dans une extrême solitude. Eh bien, écoutez, Jérémy Burton avec Thomas de Saint-Léger.
Il y a un sentiment un peu particulier quand le dernier bateau accompagnateur va faire demi-tour. On a petit sentiment de vide, un peu comme si le pont du bateau se dérobait sous nos pieds, parce qu'on sait que normalement, si on veut revenir là dans de bonnes conditions, il faut faire le tour de la planète à la voile, donc c'est quand même quelque chose d'absolument dingue, et il faut essayer de se préparer à ça et de rentrer très vite dans la course. Et puis c'est vraiment l'intérêt pour la compétition qui permet de se remobiliser très vite sur ces objectifs.
Voilà, Jérémy Burton, Olivier, c'est l'un de ces 40 marins qui sont en mer là depuis une dizaine de minutes, même pas, 34 hommes, 6 femmes, le plus âgé à 65 ans et la plus jeune à 23 ans. On va les entendre dans le reportage qu'a réalisé avant le départ, évidemment, Thomas de Saint-Léger.
Incroyable.
Faire la course autour du monde sur un bateau, seul, sans dormir plus de 6 heures par jour, porté par les éléments, par un courage, un physique et un mental hors normes, le Vendée Globe est un défi d'extra-marin bien difficile à comprendre pour le commun des terriens.
C'est long, je me vois mal. Et vous voyez les gars là, deux mois et demi là-bas?
Non, je crois pas.
Dans les premiers jours, à mon avis, ça va, mais après tu commences à t'ennuyer.
Ah oui. Non, je pense pas que tu t'ennuies.
Pourquoi? Avec tout ce qu'il faut faire.
Moi, je pense surtout la nuit, quand ils sont tout seuls sur ces montagnes de mer, ça fait un peu peur.
En fait, je suis impressionnée par le nombre de femmes et par la folie de tous les participants, parce que quand même, c'est à chaque édition qu'il y a des naufrages, qu'ils peuvent perdre la vie, mais ils continuent.
Ils continuent ou se lancent pour la première fois, mais pourquoi?
Il y a 8 ans, j'y connaissais rien, j'avais navigué 2 fois en solitaire dans ma vie, 2 fois 6 jours, et je partais pour 100 jours de navigation. C'était l'inconnu total, et j'y allais pour me battre contre ma peur, pour essayer de devenir un homme.
8 ans plus tard, Éric Bellion repart pour un tour du monde, toujours fasciné, lui le Versaillais, né loin des mers et des océans.
Je suis venu à ça par la lecture et par le rêve. Pour moi, très clairement, c'est le défi ultime. Il n'y a rien au-dessus du Vendée Globe en termes d'extrême solitude, en termes d'extrême vulnérabilité à la nature. Il n'y a aucun sport, aucune discipline, aucun travail au monde qui demande à un homme ou une femme d'être aussi loin, aussi seul, aussi longtemps, dans un univers totalement hostile.
C'est les mers hostiles, oui, mais aussi, c'est les mers aussi qui peuvent être le plus magnifique du monde.
La Britannique Samantha Davis, 4e de l'édition 2009.
Un côté stressant, angoissante, mais aussi un côté de rêve d'aller chercher ces conditions dans le Grand Sud, de surfer sur les vagues à haute vitesse avec des albatros qui nous suivent. C'est un peu ça qu'on va chercher.
Et même ceux qui partent d'abord pour la course, le match, finissent par trouver l'aventure. Jérémy Bayou, favori de la dernière édition, mais rapidement victime d'une avarie.
D'avoir pointé en tête au bout de 2 jours, d'avoir tapé un truc, d'avoir dû faire demi-tour, de repartir 9 jours après tout le monde et au bout, d'avoir réussi à boucler la boucle, ça a été une aventure intérieure assez éprouvante mais riche. Je pense que ça m'apporte beaucoup dans ce que je suis devenu ou ce que je suis depuis ce moment-là et j'espère dans ce que je vais être sur ce prochain Vendée Globe.
Alors bon vent et rendez-vous dans quelques semaines au même endroit. Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Voilà donc pour le Vendée Globe, cette course qu'on suivra au jour le jour sur RFI. Dans le reste de l'actualité sportive, Olivier,
Il y a du football, évidemment.
Et la Ligue 1 en France, notamment suite de la 11e journée hier avec le succès de Monaco à Strasbourg, 3-1, des Monégasques qui prennent 3 longueurs d'avance sur Marseille à la 2e place, 6 points derrière le Paris Saint-Germain, le PSG fidèle à ses habitudes, faible avec les forts, donc en Ligue des Champions, hein, et fort avec les faibles. Dans le championnat de France, les Parisiens tranquilles vainqueurs à Angers, 4-2, ils menaient 4-0 à la pause. Lens est 5e après son succès face à Nantes, 3-2.
Et pour terminer cette 11e journée, Olivier, aujourd'hui il y a 5 nouveaux matchs.
Nice-Lille, notamment le 6e, reçoit le 4e. Belle affiche, c'est dans un peu moins de 2 heures. Et puis, le retour du derby. Lyon et Saint-Etienne se retrouvent pour un nouvel épisode de leur historique rivalité. Sur leur pelouse, les Gaules lyonnais tenteront de mettre fin à leur mauvaise série. 3 nuls et une défaite lors de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais les Verts, 16e au coup d'envoi de cette journée, rêvent eux aussi d'une victoire pour sortir de la zone rouge et surprendre leur rival après 2 ans de purgatoire en Ligue 2. Alors avant son premier derby sur le banc stéphanois, Olivier Dall'Oglio s'impatiente de vivre ce moment si particulier dans une carrière d'entraîneur.
C'est un derby, c'est un événement, hein. C'est clair au niveau national. Il y a un gros intérêt sur ce derby, oui. On sait très bien que c'est un match essentiel pour les deux clubs, mais aussi au niveau national, c'est très suivi. C'est l'engouement, j'ai vu des images déjà pas mal, des départs de Saint-Étienne qui allait vers Lyon, voilà, avec tous les fumigènes, toute la volonté, j'allais dire, verte qui accompagnait les joueurs. Donc il y a vraiment un état d'esprit incroyable sur cet événement-là, quoi.
Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Saint-Etienne sur la pelouse de Lyon ce soir, coup d'envoi 19h45, temps universel. Ailleurs en Europe, Florent, en Angleterre, où Manchester City a été battu hier pour la 4e fois de rang, 2-1 à Brighton. Il y a aussi un derby aujourd'hui, londonien, entre Chelsea et Arsenal. Et puis en Liga hier, carton du Real Madrid, 4-0 face à Osasuna, triplé de Vinicius. Ce soir, Barcelone, large leader, se déplace à la Real Sociedad. Enfin, choc dans le même temps en Italie, où l'Inter, Milan en 2e, reçoit Naples le 1er. On rappelle aussi 2 résultats. En rugby, le carton de l'équipe de France hier soir au Stade de France face au Japon, 52-12, 8 essais inscrits par les Bleus. Et en tennis, au moment où débute le Masters Homme à Turin, celui des femmes s'est achevé hier sur la victoire de l'américaine Coco Gauff face à la chinoise Zheng, championne olympique.
Eh bien merci. Olivier Pron, le journal des sports dans RFI midi, 13h17 à Paris. Le sommet de l'APEC commence dans quelques heures, le forum de coopération économique Asie-Pacifique. Il a lieu cette année au Pérou, où la Chine s'implante en force, avec l'inauguration dans quelques jours, et ce sera en présence du président chinois, l'inauguration du plus grand port d'Amérique du Sud, construit par la Chine. On en parle tout de suite avec notre invité Emmanuel Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine, enseignant-chercheur à l'INALCO à Paris, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Est-ce qu'on peut dire que le sous-continent latino-américain est la dernière terre de conquête de la Chine ?
Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine depuis maintenant de nombreuses années, mais après la grande séquence sino-africaine, j'en veux pour preuve l'édition d'un livre blanc de la politique étrangère chinoise sur l'Amérique latine autour des années 2007, 8 et 9. Donc on a, à partir de cette période-là, une sorte de formalisation, de standardisation de la politique étrangère en direction de l'Amérique latine. Et quand on regarde dans le détail, très brièvement, en fait, l'Amérique latine est présente dans tous les pays, dans l'ensemble des pays latino-américains, dans l'arrière-cour américaine, malgré une politique étrangère américaine du Big Stick, hein, de Wilson, d'il y a plus d'un siècle maintenant, à savoir que cette arrière-cour est aujourd'hui sous l'influence grandissante de la Chine à tous les niveaux, que ce soit pour les technologies, l'importation et l'exportation de matières premières, et notamment de choses assez stratégiques comme des minerais ou du soja et des ressources alimentaires.
Dans le commerce précisément, la Chine a même réussi à devancer les États-Unis.
Complètement, et ce, dans un très grand nombre de pays latino-américains. au regard de pays par pays, le Brésil étant le principal partenaire au regard de la puissance économique brésilienne, de l'économie brésilienne, de la grandeur du Brésil avec la Chine, et ces relations sont complètement consolidées sur les 10 ou 15 dernières années. Hein. Le commerce bilatéral est aujourd'hui largement au-delà de 150, 170 milliards de dollars. Il était seulement, il y a 20, 20 ans, 25 ans, en dessous de quelques dizaines de milliards de dollars. Mais c'est vrai aussi pour le Venezuela, indépendamment des sanctions, pour des produits pétroliers. C'est vrai pour le Chili, l'Argentine ou le Pérou, où se déroule le fameux sommet de l'Asie-Pacifique. Alors qu'on parle aux États-Unis, au Japon ou ailleurs de stratégie indo-pacifique, la Chine vient ici mettre une pierre supplémentaire dans les organisations internationales pour imposer son influence. Et on se souvient que ce dernier sommet, l'année dernière, était en Californie, aux États-Unis. Et cette fois-ci, ça permet à la Chine de participer pleinement, d'augmenter son influence. Le message est envoyé très clair à la sphère latino-américaine, mais aussi d'inaugurer le plus grand port qui est notamment financé par la Chine, de Chancay au Pérou.
Alors justement, ce port, pourquoi au Pérou ? C'est le cuivre en particulier qui intéresse les Chinois, le cuivre péruvien ?
Il y a clairement un intérêt stratégique, hein. On est vraiment à un niveau stratégique de la Chine, de reconfigurer la cartographie des façades maritimes en Amérique latine, en fait partout dans le monde, mais en particulier ici en Amérique latine. Après avoir travaillé la façade atlantique du Brésil et celle de l'Amérique latine, eh bien la Chine s'attaque, si je puis dire, à la façade pacifique. Et regardant le Pérou comme étant un débouché essentiel, effectivement, pour tous ces produits qu'elle importe, qu'elle traite et qu'elle importe, notamment des matières premières, des minerais stratégiques, du Chili, une partie de l'Argentine, mais surtout du Pérou et du Chili, minerais pratiques. Donc on peut y voir ici le lithium, le cuivre, mais d'autres produits, mais aussi des produits alimentaires. Et en échange, on connaît les balances commerciales chinoises très largement excédentaires à l'export, puisque la large partie des biens manufacturés sont encore importants dans les chaînes de valeur et les chaînes industrielles chinoises, et là en direction de la Chine. Et un mot, si vous le permettez, c'est notamment au travers les trois objets, les trois éléments que la Chine essaye de subventionner à l'export ces 6-8 derniers mois, parce qu'il y a des surcapacités industrielles, les voitures électriques, les batteries et puis les panneaux photovoltaïques. Donc il est très intéressant d'observer dans les 6-8 prochains mois en Amérique latine la montée en puissance d'un parc de voitures électriques chinoises, mais aussi de photovoltaïques ou encore plus largement de batteries de tous usages.
C'est finalement une forme de débouché naturel pour la Chine, alors que Donald Trump a promis de taxer à 60% les importations chinoises aux États-Unis.
Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi par des difficultés de plus en plus évidentes côté européen vis-à-vis de la Chine, où l'Europe se prépare et on le souhaite par ailleurs une encore meilleure préparation vis-à-vis de ce dumping et de ces subventions à l'export. Donc la Chine essaie de trouver d'autres marchés, d'autres débouchés, et donc vise à réorganiser ses chaînes de valeur, ses chaînes d'export et donc les façades maritimes, avec point d'entrée, point de sortie, que sont les ports. Alors, qui dit trafic et transit licite de produits officiels assermentés par les douaniers, etc., dit aussi l'augmentation dans les prochaines années de probablement des trafics illicites. Et là, j'en veux pour preuve la montée en puissance des cartels en lien avec les groupes mafieux et criminels chinois en Amérique latine pour l'import-export de drogue, mais aussi peut-être de trafic d'êtres humains ou encore d'autres produits dans le champ de l'illicite.
Merci beaucoup Emmanuel Véron pour toutes ces explications et ces informations sur la montée en puissance de la Chine sur le continent sud-américain. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'INALCO et à l'École navale. Et ils sont partout, dans toutes les guerres ou presque du monde entier, dans toutes les allées aussi du salon Euronaval qui se tenait cette semaine à Paris, salon de l'armement spécialisé dans la marine. On parle des drones sous-marins ou de surface devenus indispensables aux flottes militaires, Franck Alexandre.
Effilé comme une torpille, caréné comme un bateau, il n'y avait pas une allée, pas un stand sans drone au salon Euronaval. Une production à foison, fruit de l'imagination de PME et des grands de l'industrie, au premier rang desquels Naval Group, Pierre-Antoine Flich.
Chez Naval Group, on a deux grandes catégories de véhicules, les drones de surface et les drones sous-marins. Dans le drone de surface, on a en effet la gamme SeaQuest, dont le plus petit, le SeaQuest S, a déjà été lancé. C'est un produit industriel qui est en essai à la mer en ce moment. Il a pour particularité d'être embarquable sur des frégates et donc de pouvoir faire tout un tas de missions à leur profit comme une extension de leur capacité.
Il peut être armé ?
Il peut être armé.
Tout comme l'UQ, un sous-marin de 10 tonnes et de 10 mètres, le bébé de l'ingénieur principal de l'armement, Patrick, de la DGA.
UQ pour Unmanned Combat Underwater Vehicle. Quelque part, on est en train de défricher un nouveau domaine avec ce type d'engin. Aucune marine dans le monde aujourd'hui est dotée de ce genre d'outils. Donc on réfléchit beaucoup avec la marine nationale à quels pourraient être les usages de ce type d'engin. Et donc de facto, quel armement il faudrait lui confier.
La mission de ce drone sous-marin, blanchir par exemple le goulet de Brest pour assurer la sortie en toute sécurité des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, fer de lance, de la dissuasion. Dans cette course au drone, les petites entreprises sont légion, tel Olcimar avec son glider Sea Explorer, Nicolas Delmas.
C'est un planeur sous-marin et on vient jouer sur la flottabilité de l'engin pour le faire couler ou remonter dans la colonne d'eau. Ça lui permet d'avancer horizontalement comme un planeur aérien.
Et quelle est sa fonction ?
Elle est multiple, donc ça dépend de la charge utile. Ici, pour l'exemple, on a une charge utile acoustique qui permet de faire de la détection ou de la localisation de bateaux. L'autonomie du glider, c'est plusieurs mois. Il est opérationnel. Ce qui va changer, c'est que c'est un produit qui est peu cher, qui est très facile à mettre en œuvre et donc en fait, on peut en mettre beaucoup. Là, actuellement, de manière industrielle, on est que deux sociétés dans le monde. Donc il y a Alcimar qui est une société française et une autre société américaine.
Et si les petits acteurs comme Alcimar ont un coup d'avance, c'est qu'ils proposent déjà leurs solutions au marché civil. C'est la clé du succès, Martel Timothée Moulinier, délégué innovation du GICAN, le groupement des industries navales.
Au GICAN, on en est persuadé. Hein. Nous, on travaille bien ces deux axes. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est dans le militaire, 50% dans le civil. Et on voit que les technologies qui sont robustes dans le temps, c'est ceux qui sont capables justement d'adresser les deux marchés qui sont capables de faire face au cycle, au temps long du militaire avec le temps court, la réactivité plutôt du civil. On croit beaucoup à cette approche duale.
La France, qui accuse un retard dans le segment des drones aériens, semble cette fois avoir tous les atouts pour devenir numéro un des drones navals.
La chronique Ligne de défense de Franck Alexandre, il est à 13h26 à Paris. Et à Paris, une exposition majeure avec l'une des figures majeures du pop art, Tom Wesselmann. Il est peut-être moins célèbre qu'Andy Warhol ou Roy Lichtenstein. Cette exposition, elle est à la Fondation Louis Vuitton avec 150 œuvres rassemblées, des corps, des natures mortes, des objets du quotidien, le pop art dans toutes ses couleurs et son exubérance. Carmen Lunsman.
Intégrer télévision et radio, bruit de moteur et téléphone, radiateur et cuvette de WC dans ses créations, c'est la marque de fabrique de Tom Wesselmann.
Particulièrement surprenante, je dirais, les œuvres des années 70, les Standing Still Life, naturellement debout, puisque Wesselmann représente un rouge à lèvres, une paire de lunettes, un petit collier, sauf que le rouge à lèvres qui est exposé dans nos salles mesure plus de 3 mètres de long. Et c'est une peinture.
Olivier Michelon, conservateur à la Fondation Louis Vuitton et commissaire associé à cette exposition autour du pop art né dans les années 50.
C'est un mouvement qui réunit des artistes qui s'intéressent aux produits de la vie quotidienne, qu'ils trouvent d'une beauté un peu stupéfiante. Et c'est vaste parce que ça va des stars de cinéma jusqu'aux conserves qu'on a dans nos placards.
Beaucoup de ces pièces, nous ne les avons encore jamais vues. S'enthousiasme Kate. Elle est venue avec son frère Lane et sa sœur Jenny pour découvrir toute l'amplitude du travail de leur père, décédé il y a 20 ans.
Nous avons vraiment vécu avec ces œuvres.
La brosse à dents géante qui dépassait des étagères de peinture quand nous jouions enfants dans son atelier, c'était toujours magique que cette chose soit plus grande que nature.
Les objets de Tom Wesselmann aux formes exubérantes et aux couleurs joyeuses vont jusqu'à dépasser le champ visuel, comme cette paire de lunettes de 7 mètres de long, vision XXL, sans forcément porter de message grandiloquent.
Il avait un sens de l'humour très pince sans rire, mais il a toujours grincé des dents à l'idée d'un quelconque message. Notre père était plus concerné par les formes et les couleurs, l'impact visuel des œuvres, mais c'était des produits de son temps.
Le pop art a des thèmes qui sont la société de consommation, la célébrité, la production. C'est un miroir de la société, donc comme un miroir, parfois ça flatte, parfois ça gêne un peu.
Tel un miroir, l'exposition oppose les grands nus féminins sensuels des années 60 de Tom Wesselmann à une série contemporaine de l'afro-américain Derek Adams. Dans ses super nudes, il réinvente l'archétype du super-héros blanc, hétéro, patriote, en homme noir, queer, exhibant ouvertement ses attributs.
Le pop est un mouvement large, d'autant plus qu'il est sans manifeste. C'est à la fois drôle, critique, un peu comme la culture populaire finalement. Quand la culture populaire est pratiquée à un certain niveau et avec une ironie et une distance, elle devient très très intelligente.
Tom Wesselman, Pop Forever, à la Fondation, 8 ans à Paris, c'est jusqu'à fin février. RFI Midi continue dans un instant, ce sera Afrique Midi.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Zangbeto et le Disco Ball Orchestra sont au cœur de nos préoccupations. Le trio de jazz togolais Zangbeto honore de sa présence la session live pour la sortie de l'album Ezo. Et le guitariste réunionnais Stéphane Waro présente le Disco Ball Orchestra avec une invitée de marque, la chanteuse de Maloya Christine Salem, convoquée pour un petit café grillé.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.